Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
C'est pas bien long, je m'installe. C'est plus facile. Dans le temps que tout était papier, là, à cette heure, c'est plus compliqué. OK. Alors, comment allez-vous? Oui, tout le monde est bien. Noël a été bien dans vos familles. Ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis bien, bien content de voir ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble, qu'on parle de la personne de Jésus. J'aimerais qu'on regarde dans les évangiles, et en particulier dans l'évangile de Jean. On va parler de la personne de Jésus, puis de qui il est. On le sait, on le connaît. On a fêté sa naissance il y a quelques jours. Et c'est toujours, je pense, important, surtout à ce temps-ci de l'année, et ça fait quelques années qu'on le fait, pasteur Jean-Sébastien le fait, de rappeler qui Jésus-Christ est et comment il est. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est commencer à partir de l'Évangile de Jean. Et en particulier, on va passer le gros de notre temps aujourd'hui sur Jean 14. Mais avant de nous tourner vers Jean 14, j'aimerais qu'on regarde un petit peu comment l'épître de Jean s'articule pour qu'on garde en tête le contexte plus large, plus grand de l'épître de Jean. On se rappelle que l'épître de Jean s'articule en quatre mouvements. Il y a quatre grands mouvements dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, j'ai-tu dit l'épître? Ah, non, l'évangile de Jean. Merci. Il y a quatre grands mouvements dans l'évangile de Jean. Vraiment, il y a le prologue. Le prologue, c'est dans le premier chapitre, hein, les 18 quelques premiers versets qui introduisent l'Évangile au lecteur à qui l'apôtre Jean s'adresse. Il parle du fait que Jésus-Christ était avec Dieu, que Jésus-Christ était Dieu dès avant le commencement. Et donc ça, c'est la première partie de l'Évangile, c'est ce qu'on appelle le prologue, l'introduction de l'Évangile de Jean. Puis ensuite de ça, Jean va commencer à explorer ou à décrire, si tu veux, le ministère de Jésus-Christ aux siens. Déjà, dans le prologue, il dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Et donc, c'est ce qu'il va explorer, c'est ce qu'il va expliquer, démontrer que Jésus est venu vers son peuple, mais que son peuple ne l'a pas reçu. Et donc, à la fin du chapitre 1 de l'Évangile de Jean, et pendant jusqu'au chapitre 12, verset 39, si je me souviens bien, hein, si vous tournez avec moi dans Jean 12, ça n'est pas 39, c'est... un petit peu, je l'ai lu il y a tout à l'heure. Dans Jean 12, on voit que il commence à parler justement du fait qu'il va être élevé. À partir du verset 27, il dit son esprit est troublé, il sait ce qui s'en vient, il sait vers quoi il s'en va. Et là, il dit, il sait que, verset 34, le Fils de l'homme doit être élevé. Et là, son âme est lourde. Et puis, au verset 36, il est confronté à l'incrédulité du peuple Et avec le verset 36, va s'achever le ministère public de Jésus. Parce qu'au 27 36, ça dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il termine son ministère public, du moins dans l'Évangile de Jean. Hein, Jean termine le ministère public de Jésus en disant, il dit, « Marchez dans la lumière pendant que la lumière est avec vous. » Puis après ça, il s'en va, il dit, « Il se cacha loin d'eux. » Et là, va ensuite, il va passer un commentaire, il va faire un commentaire sur l'incrédulité du peuple et sur le fait que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Et Jean va vraiment faire un commentaire sur tout le ministère. Il regarde en arrière sur ce qu'il a décrit, sur ce qu'il a écrit. Et là, avec le chapitre 13, commence le dernier repas. Et le dernier repas va s'échelonner chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, 17, 5 chapitres. Il a passé fin de chapitre 1, il a passé 12 chapitres ou à peu près sur son ministère, il va en passer 5 sur un souper. Un repas. Il ne faut pas négliger les repas qu'on a ensemble. Il ne faut pas les négliger. Jean a passé 5 chapitres pour nous parler d'un souper, alors qu'il en a passé 12 pour nous parler de 3 ans. Il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir un seul repas. Alors l'apôtre Jean va nous parler de ce dernier souper-là, et pendant ce souper-là, Jésus ne va pas arrêter de surprendre les apôtres. Coup sur coup, première chose qu'il fait, dans l'Évangile de Jean, qui va surprendre les apôtres, qu'est-ce qu'il va faire? Chapitre 13, il commence par quoi? Le lavement des pieds. Il va se dévêtir, il va garder son... ses bobettes, comme on dit. Hein? Il va garder son linge en dessous, mais sa tunique, il l'enlève, il va s'habiller, il va se mettre quasiment comme un esclave. Hein? C'est mieux comme ça? Bon. Il va se mettre comme un esclave, et il va laver les pieds de ses disciples. Ça, pour moi, ça nous en dit long. Ça nous en dit long sur qui est Jésus-Christ. Ça nous en dit long parce que tantôt, au chapitre 14, c'est incroyable ce qui va se passer. Regardez bien, il va dire... verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Parce que Thomas lui avait demandé, « On ne sait pas où tu vas, Seigneur. Montre-nous le chemin, puis on va le savoir. » Puis lui, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » 14, 7. Puis 14, 8. Alors, montre-nous le Père. Il dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Chapitre 13, chapitre avant. N'oubliez pas, là, c'est un seul repas. Nous autres, on lit ça peut-être en 2-3 dévotions. C'est comme on a tendance à ôter ça du temps au moment que ça a été fait. Alors, tu as un souper. Pendant le souper, il lave les pieds de ses disciples. Puis, quelques phrases plus loin, un peu plus tard dans le souper, il dit, « Vous m'avez vu? Vous avez vu le Père? » Il a lavé les pieds de ses disciples. Ça en dit long sur lui, mais je vais vous dire que ça en dit long sur le Père. Ça en dit très, très long sur le Père, parce que tout ce que le Fils fait, il a vu le Père le faire. Le Père a toujours ce cœur d'humilité. Hein? Qu'est-ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5? Ils ont fait office de quoi? D'ambassadeur.
comme si Dieu, par nous, disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Le Père, par nos bouches, supplie l'humanité de se réconcilier avec lui. On a le Créateur du ciel et de la terre qui est d'une humilité qu'on peut difficilement comprendre. Quel Créateur, quel Seigneur, quel roi irait supplier?
Comment t'appelles ça? C'est sujet, merci, pour leur dire d'être réconciliés.
Quel roi ferait ça?
Le même qui est prêt à s'abaisser, s'agenouiller aussi et laver les pieds de ses disciples. C'est le même. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alors, quand on pense à la personne de Jésus, quand on voit le mouvement, quand Jean s'est mis à écrire, et Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres? Non. Ça veut dire qu'il y avait une relation, une affection particulière pour Jean. Mais vous, comment, c'est pas parce que Jean affirme que le disciple ne se nomme pas, là, mais tout le monde s'accorde pour dire que c'est de Jean qui parle quand il dit le disciple que Jésus aimait. Mais, voyez-vous comment c'est un être humain exemplaire. Hein? Déjà un maître qui va s'agenouiller pour laver ses pieds de ses disciples. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il va le dire, chapitre 13. Il dit, pendant le souper, lorsque se leva de table, Jésus, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer. Pierre, tout de suite, Pierre, qui est le plus exubérant, va dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, tu me laves les pieds? Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Il n'en est pas question. C'est moi qui devrais te laver les pieds. Tu es le Seigneur, tu es mon maître. Tu ne laveras pas les pieds. Ce n'est pas au maître de faire la tâche d'un esclave. Puis le maître va dire, Simon-Pierre lui dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver que les pieds. Ah, attends, j'ai passé un verset là. Pierre lui dit, verset 8, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon, toujours aussi exubérant, il passe de A à Z tout de suite. Il est tout le temps entier. Tu sais, il n'y a pas de mi-vitesse. Là, tu sais. Il dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains et la tête aussi d'abord. » Jésus dit, « Non, tu n'as pas besoin de tout laver, juste les pieds, ça suffit. » Il dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. » Alors, on voit ici Jésus-Christ. On voit un Jésus qui est d'une humilité à faire peur. Quand Paul va dire dans Philippiens chapitre 2, « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Il n'a pas considéré une proie comme une proie arrachée, lui qui était Dieu. Non, non, il s'est fait serviteur. On le voit ici, il lave les pieds de ses disciples. C'est le genre d'homme qu'il était et qu'il est encore, parce qu'il n'a pas cessé d'être homme. Mais je vous dirais, ce qui est encore plus frappant de ce chapitre 13-là, c'est que c'est le genre de Dieu qu'il est. Chapitre 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. L'humilité, la manière du Seigneur, le roi de la terre au complet, qui s'abaisse. Non seulement qu'il s'est abaissé
pour être allaité, pour être dans une mangeoire, comme on a fêté récemment à Noël. Toute sa vie, il a vécu comme dans une humilité. Lui qui était Dieu, qui a marché sur terre, qui a vécu, qui a grandi. Puis déjà, il est à la fin de son ministère. Qu'est-ce qu'il fait pour enseigner à ses disciples? Il lave leurs pieds. Il dit, verset 13, « Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, verset 14, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Et donc là, on a vraiment la table est mise, le souper, pour ainsi dire, est en bonne voie. Déjà, il y a une leçon par l'exemple. Jésus se dévêt, se ceint les reins, lave leurs pieds. Toute une démonstration, tout un enseignement. Et là, on va sauter au chapitre 14, verset 1. N'oubliez pas, là, les disciples, ils apprennent des affaires dans ça. À la fin du chapitre 13, Jésus vient d'annoncer que Pierre lui-même le renierait. Il commence chapitre 14 en disant que votre cœur ne se trouble pas. Et alors qu'avant, il a dit croyant en Dieu, je pense que c'est dans Marc 11, ici, il va dire croyez en Dieu, croyez en moi. Cette phrase-là, dans Jean 14, 1, est une phrase qui est complètement sans précédent. Parce que clairement, Jésus va dire, croyez en Dieu, vous êtes des Juifs, vous êtes des Juifs qui sont croyants, qui étaient croyants avant même que Jésus arrive, ils appartenaient au Père. On va le savoir dans Jean 17, il va le dire, Jean 17. Alors, il était croyant. Il dit, vous croyez en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il met la table pour ce qui s'en vient. Il va leur dire dans quelques instants que vous avez vu le Père. Mais déjà, chapitre verset 1, 14, 1, vous croyez en Dieu, croyez en moi. Imaginez-vous comment est-ce que ces gars-là qui étaient assis à table avec lui, parce qu'oubliez pas, là, il y a quelque chose de traumatisant qui arrive. Après le souper, là, ils s'en vont faire une promenade dans le parc. Puis pendant cette promenade-là, Jésus va se faire arrêter. Puis sous peu, il va se faire crucifier. Là. On est dans les derniers milles. Et là, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Il a dit des choses troublantes, mais ce qui s'en vient, il est encore bien plus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voyez-vous comment est-ce que Jésus est toujours à l'affût, mais il leur place toujours les pensées de la terre en disant, « Hey, c'est troublant, mais croyez en moi. » Il place la foi en Dieu et la foi en Christ sur un même pied d'égalité. Alors, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Au point où est-ce que les disciples sont, ils ne peuvent pas dire, bien, ils n'auraient pas pu le dire non plus avant, là, mais ils ne peuvent pas dire, bien, je crois en Dieu, mais je ne crois pas au Fils. Le Fils est Dieu. All right? OK. Et là, Jésus, il veut les rassurer, il leur parle, qu'il s'en va, il va faire une demeure, il va revenir les chercher, hein, verset 2, verset 3, verset 4. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, c'est ça qui réveille Thomas. Puis Thomas dit, bien, on ne sait pas où tu t'en vas. Où c'est que tu t'en vas? Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est là que Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et là, il a mis la table au verset 1. Là, il est très clair. Il y en a qui vont dire, ah, Jésus n'a jamais vraiment dit qu'il était Dieu. Hey, c'est assez clair, merci. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Là, il y a vraiment une interpénétration qui est décrite ici entre le Père et le Fils. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Les deux sont un. Et bientôt, chapitre 17, toujours dans le même souper, là. Et c'est important que... C'est important qu'on ne perde jamais de vue le contexte historique de ce qui se passe. C'est dans un même souper. Nous, on lit, peut-être que notre dévotion nous rend jusqu'au chapitre 14, maintenant. Puis on arrête. Chapitre 15, ça va être demain, peut-être après-demain. Chapitre 16, chapitre 17, on oublie que c'est un seul repas, là, un seul discours. Il en dit des affaires dans ces cinq chapitres-là, ça n'a aucun sens. C'est loadé, là, théologiquement, pratiquement, c'est rempli de vérité. Mais c'est dans un seul repas. Ils n'ont pas le temps de manger même maigre. C'est vraiment important ce qui se dit là, et c'est l'ultime repas du condamné à mort. C'est le dernier repas de Jésus sur terre, avant le renouvellement. C'est le repas du condamné à mort. Les autres ne le savent pas encore. Jésus le sait. Et il leur expose toutes ces choses-là. Il leur rappelle. C'est comme si là, ils ont été lents de comprendre tout le long. Tout le long, on voit les apôtres qui ne savent pas trop. Puis d'ailleurs, ça s'en vient, là. Judas va le trahir. Ou il l'a déjà trahi, chapitre 13, là, je me promène dans le chapitre. Okay. Il s'en va pour le trahir, c'est-à-dire, il part. Jésus va dire, celui qui trempe son bout de pain avec moi, il va me trahir. Là, les apôtres ne savent pas. Pierre fait un signe à Jean qui est collé contre Jésus. Pierre fait un signe, il dit, c'est de quoi il parle? Il m'en dit de quoi il parle. Fait que là, Jean, il demande, de quoi tu parles? Puis là, Jésus lui dit, mais les autres ne comprennent pas. Ils pensent que Judas, il a la sacoche, il faut qu'il achète des affaires, des provisions. Ils ne comprennent rien de ce qu'il dit. Mais Jésus, il dit, écoute, je vous ai parlé en parabole, mais là, je vous parle clairement. Comprenez ce qui s'en vient. Ce n'est pas des blagues ce qui va se passer. La soirée avance. S'il y avait une montre, Jésus regarderait la montre. Il sait, lui, à quelle heure ça va se passer, les affaires. Il sait que ça s'en vient. Il y a la randonnée dans le parc avec les oliviers. Il va essayer de demander à ses disciples de prier pour lui plus tard. Les disciples prient. Ça, c'est au chapitre 18 déjà. Là. Mais dans le souper, Jésus essaie de vraiment leur partager ça. Eux autres, ils ont la misère à suivre. Ils vont s'en souvenir, par exemple. C'est écrit à une couple de places dans l'Évangile de Jean où est-ce qu'ils n'ont pas compris sur le coup, mais plus tard, quand ces choses se sont passées, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Il les a prévenus d'avance. Il leur a dit d'avance. Là, les choses vont faire du sens. Mais ce que je veux vous peindre ce soir, c'est que la personne de Jésus est une personne qui est qui n'est pas, c'est pas la personne illuminée qu'on voit dans les films de Jésus à TV. Là. C'est un homme qui était extrêmement pratique, un gars qui savait où est-ce qu'il s'en allait, mais il était extrêmement humble également. Il était d'une humilité, et cette humilité-là, c'était pas juste l'humilité d'un homme. Ça manifestait l'humilité du Père. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et c'est ça qu'il faut se rappeler ce soir. OK. C'était gelé, ça ne marchait plus. OK, là, ça a déjà. Et je te dis, hein, quand c'est pas du Apple. OK. Non, je ne suis pas un Apple. C'est juste parce que là, j'en profite comme si je voulais. à tout Seigneur, tout honneur. Et là, déjà vers la fin du chapitre, Jésus va parler de celui qui va venir, de l'autre consolateur. Là, mettez-vous dans la tête, là, ils ont à peine compris que Jésus s'en allait, ils ne savent pas trop où est-ce qu'il s'en va, on ne sait même pas où il s'en va. Puis là, Jésus leur parle du nouveau consolateur, d'un autre consolateur, dans le grec, d'un autre du même genre. Les disciples, c'est qui ça? Imaginez-vous comment, ils ne comprennent pas, là. Les pauvres gars, là, ils sont autour de la table, puis ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais Jésus, il sait, il les enseigne, il sait ce qui s'en vient, puis il sait ce qu'il doit leur dire. C'est le dernier shot, là. Après ça, il se fait emprisonner, puis après ça, c'est fini, il ne peut plus leur parler, là, après la résurrection, avant la résurrection. Ça va. OK? Il dit, vous avez entendu verset 28, « Je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » OK. Il continue à jaser. Je suis le vrai cèpe. Au chapitre 15, il continue le discours. Il va parler du cèpe. Ils sont les sarments. Ils dépendent de lui. Ils dépendent de lui pour pour la sève, pour ce qui leur donne la vie. Il dit aucun sarment porte du fruit de lui-même. OK? Jésus veut vraiment ancrer le fait qu'ils sont entièrement dépendants de lui. Verset 5. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'oubliez pas, il a mis la table, chapitre 14. Vous croyez au Père, croyez en moi. Chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Imaginez-vous comment est-ce qu'il veut vraiment ancrer le fait qu'ils doivent dépendre entièrement de lui, surtout avec ce qui s'en vient. Là. Avec ce qui s'en vient, là, c'est la vie. Là. Ils vont avoir peur. Hein? On va lire dans les autres évangiles, après la crucifixion, ils pensent qu'ils vont y passer, ils se cachent. C'est vraiment troublant, là. Pas pour rien que Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est vraiment troublant. Mais en même temps, il veut leur rappeler qu'ils doivent entièrement dépendre de lui. Puis, on va terminer avec la fin du chapitre 15. Où est-ce que Jésus va les consoler? va les encourager. Verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Tout un encouragement. Hein? C'est un encouragement. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Quand est-ce qu'il leur a dit, quand il avait les pieds, là, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, il leur a montré, en lavant les pieds, hein, que lui s'est fait serviteur. Alors, eux autres devraient être serviteurs les uns les autres, puis que le serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. Que si le maître a été serviteur, le serviteur doit agir comme tel, ne peut pas, s'élever. Mais ici, il va reprendre cette idée-là, puis il va dire, si le maître a été persécuté, vous allez être persécuté également. Et là, verset 26, il reparle du consolateur qui va revenir, de celui qui va revenir. OK? J'espère que ça n'a pas été trop décousu ce soir. J'espère que vous avez pu voir la beauté du Fils. La beauté du Fils qui vient de finir son ministère public. Il finit, verset 36, il va se cacher d'eux autres. Il se tourne vers les siens. Dernier repas. Grand souper. Après ça, ils se lèvent un peu, vont marcher. Après ça, ils vont au jardin de Gethsémané où est-ce que là, il va prier puis il va... Okay? Puis qui montre justement ce cœur humain qui manifeste un cœur divin et qui est aussi un cœur divin parce que Jésus-Christ est une seule personne. Il y a deux natures. Une nature parfaitement divine, une nature parfaitement humaine. Une seule personne, pas deux personnes, mais une. Hein? Puis quand on lit les évangiles, il faut toujours garder cette double nature en tête. Parce que ce qu'on voit Jésus faire, ce qu'on voit Jésus, ce qu'on entend Jésus dire par les évangiles, bien, c'est le Père. Fait que le même Dieu qui, en Christ, a lavé les pieds des disciples, c'est le même dans 2 Corinthiens 5 qui dit, « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Comme si Dieu disait par nos bouches, « Nous vous en supplions, soyez réconciliés. » Je me souviens, j'étais dans une conversation une fois et j'écrivais ça comme ça. Et mon interlocuteur était réformé. Il avait une conception plus calviniste de Dieu. Et je lui disais justement que Dieu supplie les gens d'être réconciliés avec lui-même. Évidemment, je n'avais pas cité la référence tout de suite. Là. Il avait été tellement outré de que je puisse dire que Dieu pouvait supplier l'humanité. Il dit, voir si un Dieu, le Créateur, un Dieu souverain sur toutes choses, peut supplier les hommes de venir à lui, c'est un blasphème. Mais j'ai dit d'abord, Paul blasphème dans 2 Corinthiens 5, parce que c'est exactement ce que Paul dit, que Dieu dit par les bouches des apôtres. Tu sais, Dieu n'est pas un genre de Dieu à aimer son poste et à vouloir le protéger à tout prix. Dieu, il sait que son poste, il n'y a pas personne qui va pouvoir porter atteinte à sa gloire. Comme si un homme, parce qu'on dit, pouvait porter atteinte à la gloire de Dieu, c'est impossible. Non. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. L'humilité du Fils, l'humilité du Père. Puis dans la prochaine année, dans l'année qui commence, 2017, mon Dieu. À chaque fois que je dis 2017, c'est comme si c'était un choc dans ma tête. Là. Déjà 2017, en tout cas. Dans la 2017 qui s'en vient, là, prochaine année qui s'en vient, il faut garder en tête, un, qu'on n'est pas plus que le maître,
On n'a pas à dicter au maître ce qu'il veut pour nous. On peut supplier, on peut demander, on peut plier, on peut... Mais on n'est pas plus que le maître. Si le fils a été tourmenté, si le fils a été persécuté, on risque de l'être. On n'appartient pas au monde. On vit avec le monde, on côtoie le monde, on agit avec le monde, tous les jours, on travaille. Il n'y a pas personne qui ne voit pas le monde tous les jours de sa vie. Parfois, on marche dans le monde, parfois on partage, on communie alors qu'on ne devrait pas avec le monde. Puis là, ce que je veux dire, c'est qu'on agit comme le monde alors qu'on ne devrait pas. Avoir voulu continuer, j'aurais continué dans Jean 17, il dit, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Il faut se rappeler en 2017 que cette genre de dichotomie, cette genre de double réalité du fait qu'on est dans le monde, qu'on côtoie le monde, qu'on vit avec le monde, qu'on évolue dans un domaine qui n'est pas... On est pèlerin. On est pèlerin sur terre. Demain, n'importe quand, tantôt en sortant d'ici, Dieu peut me rappeler chez eux, chez nous. Demain matin, je peux me lever, pif, crise cardiaque, ou je tombe dans la rue. Je suis tombé cette semaine, j'ai failli, j'étais sûr, je me cassais le genou. Dieu, miraculeusement, je suis tombé de tout mon poids, puis il n'y a pas à dire, sur mon genou, parce que mon pied a marché dans le mode de glace, là. Mon pied a lâché, fait que je suis tombé complètement, tout mon poids sur mon genou sur l'asphalte. J'étais sûr que je m'étais pété, fracturé un ménisque en mille miettes. À rien. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu tomber, me casser le cou. Fait qu'on est continuellement, on est pèlerin sur terre. On est pèlerin. Ça veut dire que n'importe quand, Dieu nous rappelle à la maison. Puis tout ce qu'on va avoir eu, tout ce qu'on va avoir vécu, tout ce qu'on va avoir... La seule chose qui va rester, c'est pas ce que j'aurais mis dans le compte de banque. Ce que j'aurais mis dans le compte de banque, tant mieux pour ma femme qui va rester après moi ou les gens que j'aurais pu aider par après. La seule chose qui va rester éternelle, c'est ce que j'ai avoir semé pour le royaume de Dieu. Quand Jésus soupait avec ses disciples, il savait ce qui s'en venait. Puis il savait ce qu'il devait semer pour l'éternité. Après ça, ils s'en sont souvenus, après les disciples. Eux autres aussi sont morts d'une mort qui a glorifié Dieu. De quelle mort notre vie va glorifier Dieu? Est-ce que notre mort va glorifier Dieu? Est-ce que notre vie va glorifier Dieu? C'est la question qu'on doit se poser dans la nouvelle année. Il faut, à la fin d'une année... Il faut faire le bilan de dire, est-ce que ma vie a compté pour le royaume cette année ou est-ce qu'elle n'a pas compté pour le royaume cette année? Dans quelle mesure elle a compté pour le royaume cette année? Parce que plus on s'en va, et je le sais, plus on vieillit, moins il y a tellement un danger qu'on devienne cynique, puis moi ce danger-là me guette tous les jours de ma vie, cynique face à tout ce qui se passe, qu'on peut oublier de vue que, hey, on est juste si temporairement là. Juste temporaire, c'est une petite bout d'éternité qu'on vit. Puis qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on marche? Ayez en nous-mêmes les pensées ou la pensée qui était en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.